Chapitre 16. Madame Bergeret avait en horreur le silence et la solitude. Depuis que M. Bergeret ne lui adressait plus la parole et vivait séparé d'elle, son appartement l'effrayait comme un sépulcre. Elle n'y entrait qu'en pâlissant. Ses filles y eussent mis du moins le mouvement et le bruit nécessaires à sa santé, mais à l'automne, lors d'une épidémie typhique, elle les avait envoyées chez Mademoiselle Zoé Bergeret, leur tante à Arcachon, où elles avaient passé l'hiver et d'où leur père ne songeait point à les rappeler dans les conjonctures présentes. Madame Bergeret était une femme d'intérieur, elle avait l'âme domestique. L'adultère n'avait été pour elle qu'une expansion de sa vie conjugale, un rayonnement de son foyer. Elle s'y était livrée par matronal orgueil autant que sur les sollicitations de sa chair épanouie et féconde. Elle avait toujours entendu que son petit commerce physique avec le jeune monsieur Roux demeurât une pratique secrète et bourgeoise, un adultère modéré, supposant, impliquant, confirmant cet état de mariage que le monde honore, que l'Église sanctifie, qui assure à la femme sa sécurité privée et sa dignité sociale. Madame Bergeret était une épouse chrétienne. Elle savait que le mariage est un sacrement dont les effets augustes et durables ne peuvent être détruits par une faute comme celle qu'elle avait commise. Grave, il est vrai, mais pardonnable et rémissible. Sans se juger elle-même avec une grande clarté morale, elle sentait que sa faute était simple, sans malice profonde, sans la passion qui seule donne aux fautes la grandeur du crime et perd la coupable. Elle sentait qu'elle n'était point une grande criminelle, mais plutôt qu'elle n'avait pas eu de chance. Les conséquences inattendues de cette insignifiante affaire, elle les voyait se dérouler avec une morne lenteur qui l'épouvantait. Elle souffrait cruellement d'être seule et déchue dans sa maison, d'avoir perdu sa souveraineté domestique, d'être dépouillée, pour ainsi dire, de son âme ménagère et cuisinière. La souffrance ne lui était pas bonne et ne la purifiait pas. La souffrance inspirait à son pauvre génie tantôt la révolte et tantôt l'abaissement. Et chaque jour, vers 3 heures de l'après-midi, elle sortait, roide, pompeusement parée, l'œil clair, les joues irritées, terribles, et gagnait, à grandes enjambées, les maisons amies. Elle allait en visite chez Madame Torquet, la femme du doyen, chez Madame Leterrier, la femme du recteur, chez Madame Ossian-Collot, la femme du directeur de la prison, chez Madame Surcouche, la femme du greffier, chez toutes les dames de la moyenne bourgeoisie, car elle n'était admise ni dans la noblesse ni chez les gros capitalistes. Et dans chaque salon, elle se répandait en plaintes sur M. Bergeret et chargeait son mari de tous les torts bizarres que lui suggérait son imagination, faible mais concentrée. Elle l'accusait notamment de la séparer de ses filles, de la laisser sans argent, et, déserteur du foyer, de courir les cafés, peut-être les tripots. Partout, elle gagnait des sympathies, inspirait le plus tendre intérêt. La pitié qu'elle faisait naître grandissait, s'étendait, montait. Madame Delion, la femme du maître des forges, qui ne pouvait consentir à la recevoir, puisqu'elle n'était pas de la même société, lui faisait savoir du moins qu'elle la plaignait de tout son cœur et qu'elle réprouvait la conduite odieuse de M. Bergeret. Ainsi, Madame Bergeret soutenait et contentait chaque jour par la ville son âme jalouse de considération sociale et de bonne renommée. Mais quand le soir elle remontait l'escalier de sa maison, son cœur se serrait. Elle soulevait péniblement ses jambes amollies. Elle oubliait son orgueil, ses vengeances, les injures, les calomnies frivoles qu'elle avait semées par la ville. Il lui venait un sincère désir de rentrer en grâce auprès de M. Bergeret afin de n'être plus seule. Cette idée, à laquelle ne se mêlait nulle perfidie, coulait naturellement dans cette âme facile. Vain désir, inutile pensée, M. Bergeret continuait d'ignorer Mme Bergeret. Ce soir-là, Madame Bergeret dit dans la cuisine, « Euphémie, allez demander à monsieur comment il veut qu'on fasse les œufs. » C'était une pensée nouvelle en son esprit de soumettre le menu au maître de la maison. Naguère, au jour de son innocence altière, elle lui imposait les plats qu'il n'aimait pas et qui rebutaient l'estomac délicat de l'homme d'étude. La jeune Euphémie avait un esprit de peu détendu, mais juste et rigoureux. Elle objecta fermement à Madame Bergeret, comme elle l'avait déjà fait maintes fois en de semblables occasions, qu'il était bien inutile que Madame fît rien demander à monsieur, qui ne répondrait rien, puisqu'il était buté. Mais Madame, renversant la tête et abaissant les paupières en signe d'obstination, renouvelait l'ordre qu'elle venait de donner. « Euphémie, faites ce que je vous dis. Allez demander à monsieur comment il veut qu'on lui fasse ses œufs. Et n'oubliez pas de l'avertir qu'ils sont pondus du jour et viennent de chez monsieur Trécu. » Cependant, monsieur Bergeret, dans son cabinet, travaillait à ce Virgilius Nauticus qu'un éditeur lui avait demandé pour en enrichir une édition savante de l'Énéide, préparée depuis plus de 30 ans par 3 générations de philologues et dont les premières feuilles étaient déjà tirées. Et le maître de conférence composait, fiche par fiche, ce lexique spécial. Il en concevait pour lui-même une sorte d'admiration et il s'en félicitait en ces termes. Ainsi moi, ce terrien qui n'a jamais navigué que sur le bateau à vapeur qui, l'été, chaque dimanche, remontant la rivière, pousse les citadins aux coteaux des Tuilières et où l'on boit du vin mousseux, moi, ce bon Français qui n'a jamais vu la mer cavilée, moi, Lucien Bergeret, je suis l'interprète de Virgile Nautique. J'explique les termes de marine employés par un poète exact, savant, précis malgré sa rhétorique, et mathématicien, mécanicien, géomètre, un Italien très avisé que des matelots, couchés au soleil sur les plages de Naples et de Misène, avaient instruit dans les choses de la mer, et qui avait peut-être bien sa Birème, et qui enfin de Naples à Athènes fendit la mer bleue sous les astres clairs des deux frères d'Hélène. J'y parviens grâce à l'excellence de mes méthodes philologiques. M. Goubin, mon élève, y réussirait aussi bien que moi. M. Bergeret se plaisait à l'accomplissement de cet ouvrage dont son esprit était occupé sans trouble et sans agitation. Il éprouvait une véritable satisfaction à tracer sur la feuille de carton mince les caractères menus et réguliers, images et témoignages de la rectitude intellectuelle que veut la philologie. À cette joie de l'esprit, ses sens consentaient et participaient, tant il est vrai que les voluptés qui s'offrent aux hommes sont plus diverses qu'on ne se le figure communément. Et M. Bergeret goûtait les tranquilles délices d'écrire ceci. Servius croit que Virgile a mis Attoli Malos pour Attoli Vela, et la raison qu'il donne de cette interprétation, c'est que cum navigarent notes dubium quod olim exercerat arbores, Ascensius s'est rangé à l'opinion de Servius, oubliant et ignorant qu'à la mer, dans certaines occasions, on dématait les navires, quand l'état de la mer était tel que la mâture. M. Bergeret en était à cet endroit de son travail quand la jeune Euphémie, ouvrant la porte du cabinet avec ce fracas qui accompagnait ses moindres gestes, vint porter au maître les paroles obligeantes de Madame. « Madame vous demande comment vous voulez manger vos œufs ?» M. Bergeret, pour réponse, pria doucement la jeune Euphémie de se retirer et continua d'écrire. Pouvait être exposé à quelque rupture, on abaissait les mâts, en les enlevant du puits où leurs pieds étaient insérés. La jeune Euphémie resta plantée contre la porte et M. Bergeret termina sa fiche. Et on les couchait en arrière sur une traverse ou un chevalet. Monsieur, madame m'a dit aussi de vous dire que les œufs viennent de chez Trécu. Una omnes fecere pedem. Puis il posa sa plume et se sentit rempli d'une tristesse soudaine. Il venait de découvrir tout à coup l'inanité de son ouvrage. Il avait le malheur d'être assez intelligent pour connaître sa médiocrité, qui, par moments, se montrait à lui sur sa table, entre l'encrier et le classeur, comme une petite personne maigre et sans grâce. Il se reconnaissait et ne s'aimait pas. Il aurait voulu contempler sa propre pensée sous l'aspect d'une nymphe aux belles hanches. Elle lui apparaissait en sa forme véritable qui était grêle et sans vénusté. Il en souffrait, car il avait de la délicatesse et le goût des idées. « Monsieur Bergeret, se disait-il, vous êtes un professeur de quelque distinction, Un provincial intelligent, un universitaire fleuri, un médiocre humaniste, attardé aux curiosités infécondes de la philologie, étranger à la vraie science du langage, qui n'est pénétré que par des esprits larges, droits et puissants. Monsieur Bergeret, vous n'êtes pas un savant, vous n'êtes capable ni de reconnaître ni de classer l'effet de langage. Michel Bréal ne prononcera jamais votre nom méprisé, vous périrez sans gloire et les louanges des hommes ne caresseront jamais vos oreilles. « Monsieur, monsieur, » fit la jeune euphémie d'une voix pressante, « répondez-moi, je n'ai pas le temps d'attendre, j'ai mon ouvrage à faire. Madame vous demande comment vous voulez manger vos œufs, je les ai pris chez Trécu, ils sont pondus du jour. » Monsieur Bergeret, sans tourner la tête, répondit avec une douceur impitoyable à la servante. « Je vous prie de vous retirer et de ne plus entrer désormais dans mon cabinet à moins d'y être appelé. » Et le maître de conférence à la faculté des lettres retomba dans sa rêverie. Heureux Torquay, notre doyen, heureux Le Terrier, notre recteur, nulle défiance d'eux-mêmes, nul doute indiscret ne trouble leur génie harmonieux. Ils sont semblables au vieillard Mésange, qui fut aimé des déesses immortelles, car il vécut durant 3 âges d'homme, et parvint au Collège de France et à l'Institut, sans avoir rien appris depuis les saintes années de son enfance innocente, et sachant toujours le grec comme à 15 ans. Il mourut au déclin de ce siècle, agitant encore dans sa petite tête les idées mythologiques mises en vers autour de son berceau par les poètes du Premier Empire. Mais moi, d'esprit débile, comme cet helléniste qui portait le nom de la cervelle d'un oiseau, aussi peu capable que le doyen Torquay et que le recteur Le Terrier de méthode et d'invention, moi, triste et vain joueur de mots, d'où vient que je sens cruellement mon insuffisance et l'inanité risible de mes entreprises? Ne serait-ce point un signe de noblesse intellectuelle et une marque de ma supériorité dans le domaine des idées générales? Ce Virgilius Nauticus sur lequel je me juge et me condamne, est-ce vraiment mon œuvre et le produit de mon esprit? Non, c'est une tâche imposée à ma pauvreté par un libraire cupide, associé à des professeurs artificieux qui, sous prétexte de délivrer la science française de la tutelle allemande, restaurent la manière frivole d'autrefois et m'imposent des amusements philologiques à la mode de 1820. Que la faute en soit sur eux et non sur moi. L'appât du gain et non le zèle de la science m'a fait entreprendre ce Virgilius Nauticus auquel je travaille depuis 3 ans et qui me sera payé 500 francs, savoir 250 francs à la livraison du manuscrit et 250 francs le jour de la mise en vente du tome contenant cet ouvrage. J'ai voulu étancher ma soif abominable de l'or, j'ai failli, non par l'intelligence, mais par le caractère, c'est bien différent. Ainsi, Monsieur Bergeret menait le cœur de ses pensées flottantes. La jeune Phémie, qui n'avait pas quitté la place, appela le maître pour la 3e fois.
« Monsieur, monsieur !»
Et à ce coup, sa voix, étranglée par les sanglots, s'arrêta dans sa gorge. Monsieur Bergeret, tournant enfin sur elle les yeux, vit des larmes couler sur 2 joues rondes, rouges et luisantes. La jeune Phémie essaya de parler, il ne sortit de sa gorge que des sons rauques, comme l'appel que les pâtres de son village tirent de leur cornet à bouquin le soir. Réunissant sur son visage ses 2 bras nus jusqu'au coude, dont la chair blanche et pleine était sillonnée de longues égratignures roses, elle passa sur ses yeux le revers de ses mains brunes. Les sanglots secouaient sa poitrine étroite et son ventre trop gros, à cause du carreau qu'elle avait eu dans sa 7e année et dont elle restait déformée. Puis elle rabattit ses 2 bras contre son corps, cacha ses mains sous son tablier, étouffa ses soupirs, et dès que la parole put traverser sa gorge, cria bien âprement « Je ne veux plus vivre dans cette maison, je ne peux plus. Aussi, ce n'est pas une vie, j'aime mieux m'en aller que de voir ce que je vois. » Il y avait autant de colère que de douleur dans sa voix, et elle regardait M. Bergeret avec des yeux irrités. Et vraiment, la conduite de son maître l'indignait. Ce n'est pas qu'elle l'eût nourri dans son cœur une longue tendresse pour Madame Bergeret, qui, naguère encore, dans les jours superbes et prospères, l'accablait d'injures et d'humiliations, et la privait de viande. Ce n'est pas qu'elle ignorât la faute de sa maîtresse, et qu'elle crût, comme Madame des Lions et les dames de la bourgeoisie, que Madame Bergeret était innocente. Avec la concierge, la porteuse de pain et la bonne de M. Reynaud, elle connaissait par le menu les amours secrètes de Madame Bergeret et de M. Roux. Elle les avait découvertes avant M. Bergeret. Ce n'est pas non plus qu'elle les approuva, elle les blâmait sévèrement, au contraire. Qu'une fille, maîtresse de sa personne, eût un amant, elle n'y trouvait pas grand-chose à dire, sachant la manière dont cela se fait. Il s'en était fallu de peu qu'elle n'en vint là, certaines nuits après la fête, au bord d'un fossé où elle était serrée de près par un gars qui voulait rire. Elle savait qu'un accident était vite arrivé, mais une pareille conduite la révoltait chez une femme mariée, d'âge respectable et mère de famille. Elle avait confié un matin à la boulangère que madame la dégoûtait. Pour elle, elle n'était pas portée là-dessus. Et s'il n'y avait qu'elle au monde pour faire des enfants, le monde, disait-elle, pouvait bien finir. Puisque la bourgeoisie était dans d'autres idées, elle n'avait qu'à prendre son mari. Euphémie jugeait que sa maîtresse avait fait un gros vilain péché, mais elle ne concevait pas qu'une faute, même grave, ne fût jamais remise et demeurât sans pardon. Dans son enfance, avant de se louer à des bourgeois, elle avait travaillé avec ses parents à la vigne et aux champs. Elle voyait le soleil brûler la grappe en fleurs, la grêle hacher en quelques minutes tout le blé du champ, et elle voyait, l'année suivante, le père, la mère, les frères aînés façonner la ville, ensemencer le sillon. Et à cette vie patiente et naturelle, elle avait appris qu'en ce monde brûlant et glacé, bon et mauvais, il n'y a rien d'irréparable, et que, comme on pardonne à la terre, il faut pardonner à l'homme et à la femme. Ainsi faisaient les gens de chez elle, qui valaient bien peut-être les gens du chef-lieu. Quand la femme à Roberté, la grande Léocadie, paya une paire de bretelles à son valet pour l'amener à faire ce qu'elle voulait qu'il lui fît, elle ne fut si fine que Roberté ne s'avisa du manège. Il surprit les galants au bon moment et corrigea sa femme à coups de chambrière si rudement qu'elle perdit à jamais l'envie de recommencer. Et depuis lors, Léocadie est une des meilleures femmes de la contrée. Son mari n'a pas ça à lui reprocher. C'est aussi qu'il faut marcher droit avec M. Roberté, qui a de la conduite et sait mener les bêtes et les gens. Beaucoup battue par son père, vénérable, simple et brutal elle-même, Euphémie comprenait la violence, et elle aurait approuvé que M. Bergeret cassât sur le dos de Mme Bergeret, coupable, les deux balais de la maison, dont l'un avait perdu la moitié de ses crins, et l'autre, plus ancien, n'en avait pas plus que le creux de la main. Il servait à laver avec un torchon le carreau de la cuisine. Mais que le maître gardât une longue et muette rancune, c'est ce que la jeune paysanne jugeait odieux, contre nature et vraiment diabolique. Et ce qui faisait sentir plus vivement à Euphémie les torts de M. Bergeret, c'est que sa conduite rendait le service difficile et compliqué. Il fallait servir d'une part M. Bergeret, qui ne voulait plus prendre ses repas avec Mme Bergeret, et d'autre part Mme Bergeret, dont l'existence obstinément niée par M. Bergeret ne se soutenait toutefois pas sans nourriture. « C'est comme à l'auberge, soupirait la jeune Euphémie. » Madame Bergeret, à qui M. Bergeret ne donnait plus d'argent, disait « Vous réglerez avec monsieur ». Euphémie portait en tremblant le soir son livre à monsieur, qui, ne pouvant